Oui, bonjour, Patrick Basse, principal adjoint collège dans un collège REF Plus à Nantes. Je voulais savoir s'il avait été envisagé une projection justement au collège, au cycle 3 en 6e, sur une expérimentation comme ça d'écriture et de lecture.
Alors, il n'a pas été envisagé d'expérimentation, mais par contre, effectivement, dans toutes les réunions que nous allons avoir maintenant dans le cadre du REP+, nous allons partager la démarche et les outils mis en place grâce à cette recherche-action. Et d'ailleurs, l'IPR référent du REP+ est très intéressé, donc il va venir voir aussi. On va voir comment partager cette expérience-là avec les professeurs de collège.
Henrik Villas-Boas, qui fait partie de l'équipe du Centre Alain Savary ce matin, que j'ai bêtement oublié de présenter parce qu'il n'était pas au fond, et je m'en excuse Henrik, et qui est sur notre mi-temps est formateur académique éducation prioritaire dans l'Académie de Lyon.
Merci Patrick. Alors moi je voulais vous demander si les conditions de réussite que vous avez citées n'étaient pas elles-mêmes en fait des éléments de réussite. Au sens où le fait d'avoir un chercheur, d'avoir des dispositions pour pouvoir organiser des temps d'observation n'étaient pas justement des éléments de réussite qui permettaient d'en créer d'autres, des éléments de réussite.
Tout à fait, bien sûr. Ce sont des éléments de la réussite du projet, bien sûr.
Et du coup, pour aller encore sur ta question, hein, c'est qu'est-ce qui, quand on n'a pas de chercheur sous la main, est possible? Ce matin, Marc Bablet parlait de ces passeurs, de ces métiers intermédiaires entre la recherche et la formation.
Indispensable.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible? Il y a d'autres collègues qui pourront nous parler aussi de dispositifs qu'ils mettent en œuvre, parce que ces choses-là, elles existent. Ces dispositifs de mobilisation collective sur un projet centré sur les apprentissages, mais en fait, dont on voit bien que le projet, il a un double impact. C'est-à-dire que c'est un projet qui fabrique de la culture professionnelle chez les enseignants. Donc, évidemment, si la question, c'est de dire pas de chercheurs, pas de projet, ça handicape un peu. Michel.
Oui, non, je voulais juste... parce qu'en vous écoutant, je repensais à d'autres choses que j'ai vues ailleurs ou que j'ai vécues moi-même ou auxquelles j'ai participé. Il me semble qu'on retrouve quand même des... Il y a quand même des invariants dans ce qui fonctionne bien quand on fait quand on monte un travail collectif. C'est de partir d'une vraie difficulté des enseignants qui est partagée. C'est-à-dire que c'est vrai que la pratique de l'écriture avec les élèves est un sujet difficile pour tout le monde. Donc déjà, mettre les gens autour de la table et en dynamique autour d'une question qui leur pose problème, qui pose problème aux élèves et aux enseignants en même temps, c'est déjà un bon démarrage. Enfin, c'est important. Effectivement, quelqu'un qui est là, alors j'ai mis un expert, mais ça peut être un formateur, enfin quelqu'un qui fait le passage entre théorie et pratique, qui peut relancer un travail, une réflexion en dehors du travail qui se fait avec les enseignants. Le fait que les enseignants soient engagés dans une réflexion commune, mais ils gardent leur autonomie, puisque chacun fait dans sa classe un peu au moment où il veut. Enfin bon, donc il me semble que c'est encore un élément important, l'autonomie de chaque personne au sein d'un projet collectif, une perspective de création, de mutualisation. On va créer quelque chose qu'on va pouvoir diffuser, une programmation des activités assez précise, des moments d'échange, des moments de formation qui viennent compléter ça. Il me semble que là on a quand même un schéma un petit peu d'invariants qui vont bien, comme dirait Patrick, d'invariants qui vont bien quand on veut quand même créer un travail collectif. On peut en tirer ça en dehors même de la production elle-même et de l'intérêt du sujet.
Sur cette idée, Michel, hein, pour aller exactement dans ton sens, quand on demande à des collègues de réseau, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière dans un territoire d'éducation prioritaire, mais au fait, vous, vos objets de préoccupation, quand vous travaillez avec ces élèves, c'est quoi? Ben, vous voyez que plus c'est écrit gros et plus ça revient souvent. Hein. Donc très clairement, c'est évident que quand dans un réseau, on se pose la question de quid de la production d'écrit de la grande section jusqu'à la fin de la troisième, vraisemblablement, on ne l'a pas d'entrée, mais on va pouvoir dégager un objet. Et s'il y a quelque chose que vous trouverez dans le rapport du séminaire qu'a copiloté Stéphane Kuss, c'est que la difficulté du travail collectif, c'est d'abord d'être sur un objet qui fait sens. Voilà. Et le sens, on en a parlé plusieurs fois depuis ce matin. Et qu'une des grandes difficultés du travail collectif, c'est quand on pense que le travail collectif, c'est un machin dont on va se dire, mais à quoi ça peut bien nous servir? Si on renverse la position et qu'on part, comme ça a été déjà dit, on part d'un objet de préoccupation professionnelle majeur, Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut y faire ensemble? Là, à ce moment-là, on renverse les conditions. Et c'est à partir de cette difficulté ordinaire des enseignants qu'on va pouvoir ensuite engager, en termes de psychosocial, un certain nombre de collègues en disant, ben, si tu viens travailler dans ce projet avec nous, et elle, Sylvie a bien insisté sur le fait qu'à un moment donné, l'aspect du volontariat, on ne pouvait pas passer à travers. Hein, il y a des choses qu'on doit faire tous ensemble, c'est obligé, puis il y a des choses où on n'est pas obligé. Et du coup, la question de travailler collectivement sur ces objets fondamentaux, ça réorganise, à mon avis, le sens de ce qu'on fait. D'autres ou quelques idées que tu voudrais voilà, nous préciser pour conclure?
Ce sont des interrogations. Parce que je dois maintenant, depuis le début du mois de septembre, comme vous tous, hein, je pense, fédérer hein, et mettre en place un travail d'équipe et un travail collectif dans le REP+. C'est une obligation pour la réussite des enfants, des élèves de ces réseaux. Alors, bien sûr, tout ce qu'on vient de dire là, effectivement, on voit ce qui réussit, ce qui risque de faire que le travail d'équipe aura des résultats intéressants. Il reste quand même énormément d'interrogations pour moi, en tout cas. Comment le rendre efficace? Comment lier le travail d'équipe et le travail collectif du réseau? Comment lier avec la recherche? Bon, les chercheurs, effectivement, il n'y en a pas tellement. Il faut trouver d'autres relais pour le lien théorie-pratique. Comment s'appuyer sur un vrai projet partagé? Alors effectivement, il faut s'appuyer sur les attentes des enseignants, bien entendu, sur des problématiques qui sont absolument partagées par tous. Donc il faut leur, bien sûr, poser la question, problématique commune. Travail d'équipe et autonomie, parce qu'on prône, enfin dans les injonctions, on prône le travail d'équipe, mais on nous dit aussi qu'il faut laisser les enseignants en autonomie, qu'il faut privilégier aussi l'autonomie des équipes, l'autonomie des écoles et des établissements. Donc jusqu'où accompagner, jusqu'où laisser en autonomie. Une question très sensible, il me semble, c'est l'autonomie et la liberté pédagogique. On doit repenser l'autonomie et la liberté pédagogique des équipes dans la continuité des apprentissages des élèves, qui est aussi une nécessité, la continuité des apprentissages. Voilà, donc là, il y a une tension entre ces notions de liberté pédagogique et de continuité des apprentissages. Ça peut constituer, cette tension ne doit pas constituer des obstacles. Voilà, donc toutes ces questions-là restent pour moi ouvertes, hein, elles sont à réfléchir ensemble. Et c'est une question du travail d'équipe, c'est une question qui est cruciale dans nos métiers, d'où je pense le grand intérêt de ces deux journées de formation où chacun, pour deux journées de réflexion collective qui devraient nous aider à répondre à ces questions.
Deux petites questions encore, Stéphane. Et puis, donc, on va justement essayer de voir comment le travail des coordonnateurs, hein, un peu... ou pas, parce qu'on est bien dans le cas de ces nouveaux métiers-là, qui sont des métiers d'interface. Or, on va voir dans la discussion que c'est pas parce qu'on met la fonction de coordonnateur qu'on met ce qui va avec, justement, par rapport aux questions qu'on se pose depuis tout à l'heure.
Je voulais juste dire deux petits mots à propos de l'accompagnement par la recherche. Là, on voit bien que dans votre cas, ça s'est très très bien passé. C'est quand même. Enfin, la question, c'est aussi à quel condition cet accompagnement avec un chercheur pour bien se passer. C'est-à-dire que j'imagine que derrière, il y a des qualités humaines d'accompagnement, voire même de formateur, même, oui. Voilà, et que tous les chercheurs ne sont pas, n'ont pas des compétences de formateur. Et on peut avoir par-ci, par-là, une fétichisation un petit peu de dire « oui, il faut que la recherche accompagne ». Elle n'en a pas forcément les compétences et tous les chercheurs n'ont pas les compétences. Et on a pu voir aussi que ça pouvait aussi se passer très très mal à certains endroits et à certains moments. Donc je pense qu'il faut aussi le dire.
C'est très très important hein, parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas des chercheurs qui savent et des instituts qui auraient besoin d'apprendre des chercheurs. Hein. On sait très bien que ce que ça apporte à nos Ouliass... c'est la capacité à traduire, à fabriquer des outils, à organiser des situations, etc. Donc là, c'est le Ouzoulias formateur qui vient travailler avec le Ouzoulias chercheur.
Oui.
Donc c'est pas tout à fait le même Ouzoulias qui vient travailler. Hein. Et donc ces denrées-là, elles sont rares.
Oui.
Donc la question, c'est que Aujourd'hui, on a un certain nombre de ressources qui font qu'on peut partager de la ressource rare. On peut avoir des interventions de chercheurs avec des vidéos, etc. Ça, c'est pas compliqué. Par contre, des accompagnateurs, ça se fait pas par vidéo. Et donc, comment ça se construit des ressources en termes d'accompagnement? Et elle l'a bien dit, hein, dans ce dilemme entre accompagner et laisser faire. Laisser faire pour que ça se développe et accompagner pour que ça pourrisse pas sur pied. Il y avait quelqu'un là-bas?
Nathalie Méry, UN adjointe en Haute-Garonne. J'aurais voulu savoir comment vous avez évalué l'efficacité du dispositif, sachant que voilà, vous avez très, très honnêtement dit que parfois certains enseignants ne souhaitaient pas finalement continuer. Et à quel terme et quelle efficacité et quelle réussite voilà, parce que le dispositif est récent. Et...
Oui, c'est toujours très, c'est une question très, très intéressante de l'évaluation. On avait pensé avec André effectivement faire une évaluation en fin de, l'année dernière, juste avant l'été, là on avait projeté de faire une évaluation dans les classes, dans les écoles où les enfants avaient donc bénéficié de cette recherche-là, de ce projet, et puis en comparaison d'autres classes. Mais comme je vous l'ai dit, André était très malade, il est décédé au mois de février, et ça s'est arrêté là. Moi, j'ai pas eu le temps, ni la disponibilité de mettre en place ce travail d'évaluation qui aurait été nécessaire. Alors c'est du ressenti plus, hein, effectivement, quand on va dans les classes où les enseignants qui travaillaient autrement avant, d'ailleurs l'enseignante de CP là le dit, c'est une enseignante qui est là depuis très longtemps, et elle voit les enseignants qui avaient d'autres entrées dans l'écrit que la production écrite d'emblée et la conformité à la norme orthographique tout de suite, le disent, qu'ils voient les effets très positifs de cette démarche-là. Mais bon, ça reste, ça n'est pas, c'est pas une évaluation scientifique du tout.
Toute dernière.
Alors, Christiane Berruteau, je suis formateur et plus sur l'Académie d'Aix-Marseille et directrice d'école d'application. Et j'ai participé à plusieurs recherches-actions. Donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est effectivement la dimension recherche-action, c'est-à-dire allier à la fois la théorie et la pratique, c'est-à-dire qu'il y a un protocole de départ qui est à la fois clair mais souple, hein, puisqu'il n'y a pas... voilà, ce n'est pas une méthode de travail. Hein, c'est, voilà, on cherche ensemble, et il y a cette idée d'aller-retour chaque fois, avec une grande hétérogénéité des publics, puisque qu'on soit T1, enfin, qu'on débute ou qu'on ait 10 ans d'ancienneté, on peut y entrer, et donc il y a ce travail entre pairs. Et donc je trouve que c'est ce qui est intéressant, quoi. C'est être à la fois... praticien et théoricien, parce que bon, sous prétexte qu'on est des enseignants, souvent on nous refuse ou on se refuse cette dimension de chercheur, c'est-à-dire on est dans les classes, donc il y en a certains qui pourraient penser pour nous, et il suffirait pour nous d'appliquer ce que d'autres ont pensé dans des labos, très souvent sans avoir vu d'enfants, enfin, ou d'élèves. Voilà, donc moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette dimension aller-retour, théorie-pratique, et où en fait, ensemble on cherche, effectivement, Ouzoulias, quand il débute, enfin, il a certainement des idées derrière la tête, mais il n'est pas sûr de ce qu'on va trouver et comment on va s'y prendre. Et c'est ce qui est intéressant.
Dans la question, enfin, merci de cette précision, hein, sur il n'y a pas de rapport de haut et de bas entre la recherche et les enseignants. Et souvent, on a, nous, cette conception. Pour répondre à la question de Nathalie, il y a évidemment cette idée double, hein, de l'évaluation. La première évaluation, c'est quand vous voyez cette image. C'est-à-dire, quand vous voyez cette image chez un enfant de cycle 2 des classes populaires de la banlieue parisienne et que vous voyez la maîtrise graphique qu'il a, vous dites, quand les enseignants s'engagent dans des choses et faut apprendre les élèves apprennent. Et si vous voulez, ça c'est pas mal comme résultat, parce qu'on a tellement de gens qui pensent que la fatalité sociologique de l'échec ou du non-apprentissage, hein, comme disait Farid, elle justifie toutes les ségrégations, que ce premier-là, ce premier élément, et si vous écoutez les enseignantes nous dire à quel point elles sont fières de faire réussir leurs élèves. Maintenant, tu as raison, Nathalie, ça ne nous donne pas la deuxième évaluation, c'est est-ce que quand il y a des gens qui s'engagent, ça fait faire des choses sur les gens qui ne s'engagent pas? Je crois que c'est à peu près sûr que non. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a sans doute pas d'impact, et tu l'as bien précisé avec la collègue de CE2, est-ce que ça a un impact sur sa pratique? Peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas d'automatisation du fait que les choses se répandent. hein, comme je sais pas, par gravité ou je sais pas quoi. Le fait qu'à un moment donné, il faut que les gens s'en occupent, se mettent à réfléchir et à travailler, ça me semble être là encore pas une mauvaise nouvelle en soi. C'est-à-dire qu'on n'agit pas sur les humains juste par imposition des mains ou des consciences. Bon, moi, en soi, ça me choque pas, quoi. Après, la question, et tu l'as bien précisé, c'est à quelles conditions un dispositif il est suffisamment engageant pour que une année on travaille avec 10 et que l'année prochaine on travaille avec 20. Il y a des collègues qui sont là qui nous disent que dans le groupe où ils sont, bah, ils ont commencé à 10 et puis ils ont fini à 70% de la circo qui a décidé d'ouvrir sa classe. C'est ça, c'est ces conditions-là qu'il faut qu'on observe ensemble. À quel point on est capable de dire que des choses peuvent se diffuser non pas par gravité, mais par intelligence collective. C'est-à-dire qu'on se dise, mais oui, bon sang, j'ai intérêt à m'y mettre. Parce que quand je vois ces collègues-là sortir de leur classe, fiers de ce qu'elles font, ben vous savez bien que c'est ça le moteur. Le moteur, c'est la fierté professionnelle. Se dire, est-ce que ce que je fais, ça va être quelque chose qui va être efficace pour moi, pour ma satisfaction au travail. C'est jamais gagné.